Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui poursuit sa réflexion sur l'aveu avec ce soir Jérôme Boret, philosophe. Après avoir vu la place centrale que Michel Foucault accorde à l'aveu, dans laquelle il voit d'ailleurs une reddition de l'intériorité au pouvoir, je vous propose ce soir de porter un autre regard sur l'aveu qui en valorise au contraire la puissance éthique. L'aveu peut en effet être compris comme une volonté de se détacher d'un acte mauvais en incorporant le négatif en quelque sorte, une volonté de libérer de ce coup, sinon une disposition, au moins une disponibilité au bien. C'est le sens de la réflexion que conduit Jérôme Boret dans un ouvrage qu'il vient de publier intitulé « Phénoménologie de l'aveu » aux éditions Hermann. Bonsoir Jérôme Boret.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, comment vous définiriez l'aveu? Vous écrivez un livre sur la phénoménologie de l'aveu. Il y a plusieurs aveux. Il y a l'aveu devant un tribunal stalinien, dans un procès stalinien. Il y a l'aveu amoureux. Et puis il y a l'aveu judiciaire aussi, celui qu'on fait, ou l'aveu policier même. Comment est-ce que vous pourriez saisir le cœur de cet acte qu'est l'aveu?
Je dirais que c'est l'enjeu même d'une phénoménologie de l'aveu qui s'affronte d'emblée, dirais-je, à deux obstacles qui expliquent aussi sa double tâche, si je puis dire. Le premier, c'est justement la multiplicité des acceptions de l'aveu qui paraissent n'avoir rien en commun. Nous allons de la confession privée à l'autocritique en usage dans les systèmes totalitaires. Et nous pouvons nous demander, par exemple, ce que peuvent avoir en commun le Raskolnikov et Lance Armstrong.
C'est ça. Oui,
voilà.
Oui. Et l'entretien psychiatrique, si on accompagne Foucault jusqu'au bout, il dit ah oui, mais l'entretien psychiatrique, c'est un aveu.
Voilà, donc il faut aussi envisager la multiplicité des domaines où l'aveu joue un rôle. La psychiatrie, la médecine au sens large est l'un de ces domaines, mais la religion, mais le droit, vous le disiez, mais la politique. Voilà, et donc le premier enjeu d'une phénoménologie de l'aveu, c'est de tenter de réduire cette multiplicité à l'unité. Mais alors, il faut bien comprendre que il ne s'agit pas de trouver ce qui serait le caractère commun à toutes ces acceptions ou à tous ces usages ou à toutes ces pratiques de l'aveu. Car, je le disais à l'instant, il semble bien que certains airs de famille soient trompeurs et qu'il n'y ait pas de parenté réelle entre les différents exemples, les différentes applications que j'ai pu en donner.
Alors,
et donc, je termine en disant que l'enjeu dans ce cas, c'est peut-être de dégager ce qui serait la signification véritable de l'aveu.
Alors,
c'est là que je rencontre. Voilà, les critiques que vous évoquiez.
Signification véritable, moi, en tant que juriste et même en tant que juge, je me limiterai au judiciaire. Mais au judiciaire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cet acte qui consiste, alors spontanément ou pas, on y reviendra, ou sous pression, à avouer sa faute, avouer son crime, avouer une transgression, qui est un acte mystérieux parce que c'est à la fois un acte négatif et positif. Oui, j'assume d'avoir commis tel acte. Oui, je reconnais d'avoir commis tel acte. Et en même temps, il y a une dimension positive.
Oui, donc c'est cette double dimension que j'essaie de ressaisir contre une conception que je suis tenté de dire univoque ou unilatérale de l'aveu, qui n'en retient en quelque sorte que la signification négative.
L'aveu serait une soumission au pouvoir, une sorte de reddition. Je me rends, je dépose les armes. Oui, c'est moi. Vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé, vous m'avez identifié. J'avoue. Et je ouvre la porte à un contrôle de l'intériorité. Parmi les multiples critiques qu'adresse Foucault, c'est cette idée d'une sorte d'orthopédie qui est avalisée par le sujet.
Oui, pour Foucault, l'aveu n'est qu'une intériorisation de la violence sociale. Il est tout entier dans l'auto-accusation et correspond en ce sens à ce qu'on pourrait appeler une tendance morbide. Mais il s'agit précisément de se demander si il est possible de réduire l'aveu à ses formes les plus corrompues. Or, il me semble que c'est ce que fait Foucault. Et je ne voudrais pas du tout réduire la discussion qui m'engage dans ce livre à une discussion avec Foucault, mais il se trouve qu'il incarne peut-être au plus haut point une interprétation de l'aveu, et précisément celle qui me paraît la plus réductrice et du coup la plus discutable.
Parce que il y a à l'origine de l'aveu, dites-vous, le sentiment de la faute. Il y a le premier acte et là aussi on retrouve cette dualité de l'aveu. C'est un acte de langage. J'avoue et c'est indissociable. Il y a pas de ça ne peut pas se limiter à un signe l'aveu, Jérôme Poré.
Oui, certainement. Donc, je ne voudrais pas, pour revenir un instant à Foucault avant de répondre à votre question, laisser croire que les critiques de l'aveu sont inutiles. Elles ont au contraire un caractère solide, tout à fait essentiel. S'adresse justement à ces formes les plus corrompues. Je pense à l'aveu extorqué, je pense à l'aveu sous la violence, je pense sous la torture,
qui existe toujours aujourd'hui.
Comme existent les aveux dictés par la folie. Mais nous avons tous à l'esprit l'image du film de Costa Gavras, l'aveu, Yves Montand, la corde au cou. Et nous avons du mal effectivement à nous défaire de cette image. Mais vous avez insisté, et j'en reviens à votre question, Antoine Garapon, au caractère d'acte qu'implique l'aveu.
Et d'un acte libre.
Et il me paraît tout à fait essentiel. Je crois que l'aveu commence au sentiment, et c'est ce qui explique que la première partie de l'ouvrage concerne ce que j'appelle le travail du repentir, qui est essentiellement un travail de mémoire, mais il s'exprime dans un langage. Et pour le dire clairement, c'est un acte de langage. Et un des actes qui font partie de ce que les théoriciens du langage appellent les performatifs, oui. C'est-à-dire des actes qui font ce qu'ils disent. Avouer n'est pas fournir une information sur un fait, c'est accomplir l'acte.
C'est ça. C'est intéressant, parce que la langue anglaise, comme souvent d'ailleurs, va donner en deux mots différents cette dualité de l'acte d'aveu entre recognition et acknowledgement. C'est-à-dire que je reconnais les faits, I reckon, ça veut dire j'atteste que effectivement j'ai commis cela ou que cela s'est passé, c'est un constat. Et acknowledgement, c'est-à-dire je reconnais, c'est une dimension beaucoup plus morale. C'est-à-dire je reconnais l'ordre symbolique que j'ai transgressé à travers cet acte. Et c'est très important cette nuance. Vous avez ces deux tendances dans l'aveu, Jérôme Poré.
Tout à fait. J'ai peut-être envie de souligner la deuxième, car l'aveu m'apparaît comme un coin enfoncé par la morale dans une institution, je parle ici de l'institution judiciaire, qui le plus souvent l'ignore. Avouer, c'est prendre sur soi le mal. Donc c'est plutôt le deuxième sens que vous évoquiez à l'instant. Et prendre sur soi le mal, effectivement, eh bien c'est en rendre compte à d'autres. Et principalement, je voudrais dire cela tout de suite, parce que cela, me semble-t-il, donne un sens à l'entreprise entière. S'il existe une vérité de l'aveu, et je le dis contre ces critiques les plus radicales, c'est une vérité due à la victime. Et donc reconnaître...
Une dette à l'égard de la victime.
Voilà. C'est une reconnaissance, mais au sens, vous le dites bien, d'une reconnaissance de dette. Avouer, c'est se reconnaître comptable de la souffrance commise à un autre. Et je suis frappé d'ailleurs de l'attention que portent les victimes aux signes qui pourraient indiquer chez les prévenus une attention quelconque à leur souffrance, une reconnaissance quelconque. Donc c'est très important de penser l'aveu comme un acte qui répond à un appel qu'on pourrait appeler l'appel de l'autre, même si cet appel est muet, même s'il est relayé par une institution qui n'en fait plus même entendre l'écho. Je crois que ça donne un sens à toute entreprise de réhabilitation de l'aveu.
Alors, on va venir ensuite à la réhabilitation, mais Jérôme Porret, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un philosophe qui a consacré une grande partie de son œuvre et même de sa thèse, je crois, à la souffrance. À la souffrance et à la problématique du mal, qui est une problématique particulièrement difficile et auquel les philosophes n'aiment pas beaucoup se confronter, d'ailleurs. Et donc, est-ce que vous pensez véritablement, en vous situant des deux côtés, du sujet avouant et du sujet souffrant, et notamment souffrant d'une injustice qui lui a été faite, souffrant d'un crime dont il a été victime, est-ce que vous pensez que l'aveu apaise, quel effet produit l'aveu sur la victime ?
Il est difficile de parler
oui, bien sûr, mais,
pour la
mais,
victime, mais c'est certainement...
C'est une des difficultés de la victime, c'est que personne ne peut parler pour elle.
Voilà, mais c'est l'une des médiations qui peuvent permettre peut-être à la souffrance, parce qu'elle est reconnue par celui-là même qui l'a commise, eh bien de la prendre sur soi, en un autre sens que celui que je disais tout à l'heure à propos de l'homme qui avoue et qui, à sa façon, prend sur soi le mal. Mais alors je voudrais, à propos des critiques qui sont faites à l'aveu, évoquer tout de même l'une de ses causes les plus profondes, c'est-à-dire l'effondrement de l'un des grands mythes fondateurs de notre culture, le mythe adamique. C'est-à-dire le mythe de la chute du premier homme,
c'est ça, voilà, oui.
Que tous les autres sont censés payer par leur souffrance.
Un crime qu'ils n'ont pas commis, un crime qui est lié à leur condition humaine.
Je ne défends pas du tout, se disant ce qui est devenu dans la théologie chrétienne le dogme du péché originel, mais il faut quand même dire que ce dogme n'en propose que l'interprétation la plus contestable, celle qui s'exprime chez saint Augustin avec l'idée de la souffrance salaire du péché, par exemple.
Qui a écrit un livre des confessions qui ont été traduits par Les Aveux, par Boyer.
Oui, ça c'est une autre question. Je ne suis pas d'accord avec cette traduction.
Mais pour dire l'importance de cette...
Dire qu'on a là le point de départ d'un processus que les sociologues même décrivent sous le nom de déculpabilisation. Et alors la déculpabilisation est une bonne chose au sens où il y a une culpabilité pathologique, mais elle ne l'est pas si on admet que toute culpabilité n'est pas pathologique, qu'il y a même peut-être une absence pathologique de culpabilité, des revendications d'innocence qui sont, au fond, plus effrayantes que tous les méfaits de l'auto-accusation, que toutes les redditions du désir. Et si vous me permettez d'ajouter un mot, le problème de la déculpabilisation, c'est qu'elle va de pair avec un autre processus que les mêmes sociologues ont très très bien décrit, la victimisation.
Car les deux vont de pair pour vous.
On passe d'un tous coupable au tous victime. Je ne veux pas du tout ironiser sur cette transition d'un tous coupable au tous victime, mais je voudrais remarquer simplement que ce tous victime introduit ce qu'un sociologue parmi ceux que j'avais à l'esprit à l'instant a appelé la concurrence des victimes, de sorte que nous sommes, par cette victimisation, empêchés de responsabiliser les vrais coupables et de reconnaître les vraies victimes. Alors, ce sont là peut-être les deux fonctions essentielles de l'aveu. Responsabiliser les vrais coupables, reconnaître les vraies victimes.
Et alors, ce qui est frappant entre le coupable et la victime, c'est qu'ils partagent un même sentiment, pour des raisons symétriques et communes, de solitude morale. La souffrance isole, mais la culpabilité aussi isole. Et vous rappelez fort opportunément ces lignes de crime et châtiment de Dostoïevski, où Raskolnikov dit qu'il éprouve, je cite, « un dégoût presque physique pour toutes les choses et les gens qui l'entouraient. Il lui semblait avoir tranché lui-même, aussi sûrement qu'avec des ciseaux, le lien qui le retenait à l'humanité. » Jérôme Porret, c'est-à-dire que l'aveu, c'est aussi, peut-être même d'abord, la volonté de sortir de la solitude dans laquelle se trouve l'homme coupable, c'est-à-dire l'homme séparé.
Peut-être ne faut-il pas prononcer trop vite le mot réconciliation, mais il est certain que avouer, c'est se compter à nouveau dans le pot commun de l'humanité. C'est donc, en ce sens, se rendre la vie à nouveau possible. Alors, j'ajoute, puisque vous citez Raskolnikov, que les aveux de Raskolnikov, qui sont d'ailleurs tout sauf simples, mais sont à opposer dans mon esprit à d'autres aveux et peut-être la figure de Raskolnikov à d'autres figures. J'évoquais tout à l'heure le film tiré de l'ouvrage de Jacques London, mm-hmm. La figure du condamné montant qui s'accuse lui-même de crimes qu'il n'a pas commis. Mm-hmm. Bon, parce qu'il faut commencer par cette critique et en ce sens, j'assume parfaitement la position de Foucault. Et donc, je vous poserai cette figure de Raskolnikov à celle de Montand, mais aussi à celle de Roubatchov, par exemple, dans le roman de Koestler, Le zéro et l'infini. Roubatchov qui incarne l'une des victimes des procès de Moscou. Voilà. Mais Raskolnikov est, je dirais, la base continue qui me permet de revenir toujours au-delà des critiques qu'on doit lui faire à la signification positive de l'aveu, à ce qui, en lui, dénonce l'impossible solitude du coupable et attend ou espère une forme de réconciliation qui rendrait la vie à nouveau possible.
Alors, il y a deux observations, parce que pour nos auditeurs, l'aveu de Raskolnikov, c'est la recherche d'une publicité de ce qu'il a fait, et c'est la recherche, à travers le juge, de cette ratification positive et négative de son acte. C'est très différent de ce que des premières lignes des confessions de Rousseau, où les confessions de Rousseau, vous insistez là-dessus, ce sont des confessions intimes, ce sont des confidences, et des confidences qu'il adresse d'abord à lui-même. Même d'ailleurs, et il se reconnaît comme le seul véritable juge de sa vie.
Je ne dirais pas ça de cette façon-là. Il me semble que les confessions de Rousseau sont moins de l'ordre de la confidence que de la confiance. Elles sont adressées à. Il se trouve que
à ses lecteurs.
Elles sont adressées à ses lecteurs, mais en second lieu seulement. Elles sont d'abord adressées à Dieu. Et cette confiance faite qui rend possible, justement, les aveux.
Alors, entre l'aveu, le désir de repentir et la réconciliation, vous disiez, il ne faut pas aller trop vite en besogne, Jérôme Poré, il y a le chemin de la réhabilitation. Il y a d'abord le moment du procès, le moment public de l'aveu, et puis la réhabilitation. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet acte de langage qui est très particulier, parce qu'il est dit à un tiers public, policier ou juge, et il est dit pour ouvrir quelque chose d'autre qui commence par la peine ou par un chemin qui n'est pas directement la réconciliation.
Oui, j'articule la brève parole de l'aveu au long chemin de la réhabilitation. Il faudrait en dire beaucoup plus sur ce qui constitue l'acte de langage de l'aveu, mais je souligne deux choses. D'abord, le fait que l'homme qui avoue dit « Je suis le même aujourd'hui, moi qui vous parle, que celui que j'étais au moment où j'accomplissais mon action. »
Et en même temps, j'ai envie de me détacher de moi-même.
Voilà, donc mais c'est le deuxième moment. Oui. Le premier moment consiste donc à insister sur ce que je crois être le premier postulat de l'aveu, j'entends, celui de la permanence du « moi ». Je suis le même que. Celui que j'étais lorsque j'accomplissais cette action. Mais en même temps, l'acte de langage de l'aveu accomplit quelque chose. Et d'ailleurs, celui qui avoue n'est pas regardé de la même façon par le juge, par le témoin, par la victime, que pendant le temps où il niait son acte.
Oui, parce qu'il a un visage, il y a une dimension très rassurante dans l'aveu. C'est quand il avoue, il atteste une communauté de valeurs avec moi qui l'écoute ou avec le public qui y assiste.
C'est le deuxième moment, et il signifie précisément que, en avouant, je prends sur moi le mal, et surtout que j'accomplis un acte qui me met d'une certaine façon au niveau de celui que j'avais accompli dans la faute, et qu'à ce moment véritablement, je ne suis plus le même. Et donc, l'aveu dit à la fois « je suis le même, c'est bien moi ». Et j'insiste, une sorte de redoublement de l'énonciateur dans son énonciation, c'est moi qui ai assassiné la vieille usurière et sa sœur Elisabeth. Bon, mais en même temps, je ne suis plus absolument le même. C'est-à-dire, je me montre capable en avouant d'autres actions que celles qui me condamnent aux yeux du monde. Et donc, ce sont les deux qu'il faut tenir et qui ouvrent, je dirais, mais je n'ai pas répondu à votre question jusqu'à ce point, en disant cela, qui ouvre le chemin de la réhabilitation.
« rappelle que vous êtes sur France Culture, matière à penser, qui se penche ce soir sur l'aveu avec Jérôme Porret, philosophe, qui a choisi de nous faire écouter le quatrième mouvement du huitième quatuor de Shostakovich, qui était interprété ce soir par le quatuor Borodine. Pourquoi ce choix, Jérôme Porret, outre qu'il s'agit d'un russe? C'est peut-être un rapport avec Raskolnikov.
Je vais essayer de vous répondre, Antoine Garapon, mais c'est pas si simple. D'abord, il faut savoir que ce quatuor a été écrit à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et dédié à toutes les victimes du fascisme et de la guerre. Dans une lettre à un ami, Shostakovich semble démentir cette affirmation en écrivant « Je l'ai dédié d'abord à moi-même et j'ai versé autant de larmes en l'écrivant que je répands d'urine après avoir bu une demi-douzaine de bouteilles de bière. » Bon. Mais c'est pas forcément contradictoire. Lui-même était victime de la guerre. Oui. Je disais tout à l'heure que la vérité de l'aveu, s'il en est une, était une vérité dû à la victime. Donc ça, c'est la première justification. La deuxième, si vous me permettez de dire un mot d'un des ouvrages que vous avez cité tout à l'heure, ce petit livre sur la douleur que j'ai publié l'année dernière, parce que ce sont quatre études. La dernière concerne le rapport entre l'art et la douleur. Et j'essaie de répondre à deux questions dans cette étude. L'art peut-il exprimer la douleur? L'art peut-il transformer la douleur? On essaie de montrer que la musique permet de répondre positivement, mieux que d'autres arts, à ces deux questions. Pourquoi ? Parce que elle peut être définie comme un art de la dissonance. Je veux dire par là que c'est par la dissonance que la douleur entre en quelque sorte dans la musique. Et je distingue, à la fin de ces études, entre trois modèles de dissonance. Dans le premier, eh bien, la dissonance est en vue d'un retour à la consonance, ce qu'on voit la musique classique, etc. Bon, il ne reste rien de la douleur, si vous voulez. La musique est l'image d'un monde en ordre. Bon.
Harmonieux.
Dans le deuxième modèle, à l'inverse, la dissonance reste irrésolue. Là, l'esprit, en disant ça, les expérimentations de certains compositeurs contemporains à la lisière du bruit et du chaos. Bon, il ne reste que la douleur. Mais il y a un troisième modèle. Et dans ce modèle, je dirais que la dissonance nous laisse espérer une résolution, dont elle diffère indéfiniment la réalisation. Et alors, c'est là que on retrouve Shostakovich. Alors, d'une part, Shostakovich, puisque c'est notre objet premier, immédiat, dirais-je, parce que c'est ce que j'entends dans la musique de Shostakovich, même si le bref extrait que nous avons entendu nous laisse plutôt dans un désespoir total.
Oui, oui.
Bon, la timide espérance qui sourd de ce désespoir, elle peut être entendue à l'échelle de l'œuvre entière, si vous voulez. Mais effectivement, on retrouve aussi l'aveu parce que...
Il y a une dissonance, dans l'aveu.
Parce que l'aveu est, je dirais, l'aveu d'une dissonance, de ce qui rompt le cours d'une existence. Il la rend disharmonique, effectivement, plus qu'elle ne l'est, je dirais, originellement, de par sa finitude. Et en même temps, il espère une résolution. Donc il faut dire qu'il ne sait rien. Car j'insiste à un moment dans la deuxième partie du livre, qui concerne justement la pragmatique du langage, sur la forme narrative de l'aveu. Mais l'aveu est un récit à plusieurs voix.
Il ouvre une nouvelle histoire, c'est-à-dire qu'il commence quelque chose, il clôt quelque chose. Le simple fait d'avouer, oui, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait le coup, ça veut dire à la fois je clôt la période où je me cachais et je romps cette solitude de la culpabilité. J'ouvre une histoire, mais une histoire dont je ne connais pas la fin.
Voilà, c'est-à-dire que l'homme qui avoue assume le fait qu'il n'aura pas le dernier mot. Pourquoi ? Parce que le récit qu'il commence, comme vous dites, est un récit ouvert, au minimum, à d'autres voix que la sienne. Celle du témoin et, finalement, celle du juge. Et donc, il ne sait pas ce que les autres feront.
C'est très intéressant parce que l'action publique, si on va à l'étymologie de l'action publique, de l'accusation, vous commencez par cet acte d'accusation et le grand livre de Tricot, de François Tricot, qui vous a...
Dans lequel j'ai beaucoup d'admiration.
C'est ça, on a tous beaucoup d'admiration pour le livre de François Tricot, et qui est un très grand livre sur l'accusation, figure de l'agression éthique. Et justement, dans l'accusation, on retrouve exactement quelque chose de symétrique et de symétriquement inverse à l'aveu. C'est l'accusation, c'est on interpelle quelqu'un, on saisit un juge, on saisit une juridiction, mais on ne sait pas la fin de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que beaucoup de gouvernements ont du mal à accepter, c'est que l'accusation ne soit pas systématiquement suivie de condamnation, et que c'est toute la dynamique de la justice. C'est d'une part l'aveu, d'autre part l'accusation, qui sont deux manières d'ouvrir un espace, qui est l'espace de la discussion, qui est l'espace de la confrontation, l'espace de l'argumentation, mais dont on ne connaît pas l'issue. Et c'est pour ça qu'il y a une justice. Alors, vous insistez, Jérôme Porret, sur un autre, une autre dimension, avant de parler de l'avenir et de l'espérance et de l'ouverture du nouveau, se rendre disponible à du nouveau. Vous insistez aussi sur le fait que, dans le procès, l'aveu, par sa nature même, réactive une origine commune. Réactive une institution, et cette institution fait référence à quelque chose de commun. Et ce qu'il y a de commun entre les hommes, c'est en général leur manière de parler, de se représenter de leurs origines.
Oui, et plus précisément, je parle d'une institution qui est en quelque sorte l'institution qui soutient toutes les autres institutions.
Et
qui est l'institution du langage. Et ce qui me paraît frappant, caractéristique de cette institution première, si l'on peut dire, c'est qu'elle n'a pas la solidité donne aux autres l'autorité de l'État ou la pérennité de la tradition. C'est-à-dire que c'est une institution dont la pérennité dépend de ce que chaque locuteur en fera. Elle a pour chacun la fragilité des choses précieuses. Donc c'est comme si nous avions la garde de cette institution.
Et ça veut dire que ce langage peut être abîmé par les faux aveux.
Il peut être abîmé et, je dirais même, rendu impossible. J'évoque l'une des raisons, dans le même contexte, l'un des exemples que Kant, le philosophe, donne pour justifier son idée que une action est moralement acceptable lorsqu'elle est universalisable. C'est l'exemple de la fausse promesse. Bon. Et il montre que si on ne peut pas justifier la fausse promesse, c'est parce que elle se retourne contre l'institution du langage. C'est-à-dire que le langage ne serait pas possible s'il n'était que guerre continuée par d'autres moyens. Si le mensonge devenait la règle.
Est-ce que ça veut dire que l'aveu, pour vous, Jérôme Porret, est-ce que ça veut dire que l'aveu renforce le langage?
Je dirais que l'aveu, en ce sens-là, en ce sens même, restaure l'institution du langage. Et il lui permet de fonctionner, parce que ce qui lui permet de fonctionner, c'est la confiance que lui font les locuteurs, et, ajouterais-je, le soin qu'ils en ont. L'aveu, en ce sens, oui, restaure l'institution du langage lorsqu'elle est menacée par le mensonge.
C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'étymologie, on en revient toujours là, l'étymologie du procès de l'ordalie, ordeal en anglais, vient de l'allemand urteil, le partage des origines. Le partage des origines. C'est-à-dire que on peut se parler et les institutions peuvent agir lorsque on partage quelque chose de commun qui va être réactivé à l'occasion du procès.
Certes, mais je dirais que ce que nous avons en commun, c'est d'abord le langage, cette capacité même de comprendre, même si elle s'exprime selon des modalités très différentes.
Vous disiez précédemment, Jérôme Porret, qu'il y a aujourd'hui cette détestation de l'aveu qui est très, répandue, va avec une tentation de l'innocence, autre thème très très contemporain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de culpabilité, il y a des accidents, mais il n'y a plus la volonté de mal faire, et il y a ce désir de nos contemporains de retrouver une innocence première.
Oui, vous faites bien, Antoine Garapon, de souligner une innocence première, car je crois que, en ce sens-là, personne n'est innocent. Personne ne peut sérieusement répondre « Oui, as-tu tout fait, tout ce qui était en ton pouvoir pour que le mal n'arrive pas ?» En ce sens, on peut bien parler de la fiction de l'innocence. Mais le paradoxe de l'aveu, c'est qu'il est une porte ouverte sur ce que l'on peut appeler une seconde innocence, c'est-à-dire une innocence qui suppose la traversée du mal. Parce que il rend l'homme à une capacité qui reste sienne, c'est-à-dire d'accomplir des actes d'une nature différente que celui qui le condamne.
C'est le contraire du destin.
C'est le contraire du destin, et là je suis, après d'autres, très dépendant La lecture kantienne du mythe adamique. Nous parlions tout à l'heure à propos de Saint-Augustin, de son interprétation la plus problématique, la plus négative. Mais quand s'efforce de faire en sorte que l'image de l'homme après la chute n'efface pas entièrement celle de l'homme avant la chute. C'est-à-dire que la culpabilité n'est pensable, selon lui, que sur fond d'innocence. Et donc, c'est l'idée toute simple qu'il existe en l'homme eh bien, des ressources inemployées.
Il y a une innocence résiduelle.
Je ne dirais même pas ça. Je dirais simplement des ressources inemployées de justice et de bonté. Et ce sont ces ressources, en quelque sorte, que mobilise l'aveu.
Et donc, quand j'avoue un crime, c'est une manière de me solidariser avec ce que j'ai fait et de me désolidariser avec cet acte en faisant usage de capacités qui n'ont pas été réduites, qui ne sont pas carbonisées par le crime.
Le propre de l'espérance, puisque c'est un thème que vous vouliez aborder tout à l'heure, l'espérance propre à l'aveu, parce que je crois que l'aveu n'est possible que s'il s'inscrit d'une façon ou d'une autre dans un horizon d'espérance. Le propre de cette espérance, effectivement, c'est de faire saillir en nous des capacités qui restent, comment dire, celles qui pourraient effectivement nous réinstaller dans le pot commun d'une humanité que nous avons, d'une certaine façon, menacée par l'acte que nous avons accompli.
Donc il y a dans cette innocence, cette seconde innocence, la possibilité de cette seconde innocence, c'est la possibilité d'un monde commun, la possibilité d'un nouveau départ, la possibilité d'un horizon. Alors, réconciliation, le terme est peut-être trop fort, pardon également, mais la possibilité de se sortir, de traverser le mal. Il y a une issue à la traversée du mal. C'est ça l'espérance moderne.
Oui, pour dire plus clairement, ce que je n'arrivais pas à dire à l'instant, assez simplement, je dirais que l'espérance, c'est que l'homme coupable du pire reste capable du meilleur. Voilà. Et en ce sens, l'aveu, effectivement, vous parliez de la solitude du repentir, l'aveu, dans la mesure où il est un acte du langage, nous fait sortir de la solitude du repentir, et il est en quelque sorte le choix d'un monde commun. L'homme qui avoue fait, implicitement, peut-être ne le sait-il pas lui-même, et je parle évidemment de l'aveu authentique, je ne parle pas de l'aveu réduit à un calcul, à un choix stratégique, pour ne pas parler des aveux extorqués par la violence, etc. Mais l'homme qui avoue fait le choix d'un monde commun. C'est-à-dire, il ne le sait pas, mais c'est comme si le monde pouvait continuer d'être habité par des hommes qui, bon gré mal gré, coexistent, s'entendent et arrivent à vaincre, même si c'est toujours provisoirement, la violence dont ils sont capables les uns à l'égard des autres.
Il y a un terme que vous employez souvent dans le livre qui est assez insolite parce que on le rencontre assez peu, encore que, c'est le terme de régénération. C'est-à-dire que l'aveu, c'est un autre des paradoxes de l'aveu, c'est qu'à la fois c'est le signe d'une déchirure, c'est le fait d'assumer une déchirure, mais une déchirure qui, grâce à ce commutateur symbolique qu'est l'aveu, va pouvoir permettre une régénération du tissu social.
Oui, le propre de l'aveu, dans la lecture que j'en propose, c'est qu'il réactive des ressources d'affirmation, qui n'est pas tout entier du côté de la crainte ou de
affirmation
la vengeance.
Affirmation de soi, c'est un terme très cher et là, à Naber. Et
voilà,
aussi
mais,
ensuite
mais
à
je pense à un auteur qu'on lit moins que d'autres, que j'évoquais tout à l'heure, ceux qui pensent, qui mettent l'aveu du côté de la crainte, de la vengeance. Donc on pense à Spinoza, qui voyait une passion triste, enfin qui diminue notre puissance d'exister. Je pense à Nietzsche, évidemment. Il y a donc de l'autre côté un auteur qui est Max Scheler et qui pense l'aveu du côté de la renaissance, justement, voilà, d'une réaffirmation de soi qui va au-delà de la négation que constitue la faute en tant que telle.
Alors vous craignez, Jérôme Porret, afin vous terminez votre livre sur la crainte, et qui est là aussi très contemporaine, qui est une angoisse contemporaine, de ce que vous appelez la crise de la symbolisation. Nous n'arrivons plus à symboliser. C'est peut-être pour ça que votre langage sur l'aveu est décalé, ou que les auditeurs s'en sont rendus compte. Ce n'est pas une attitude commune à l'égard du pouvoir. L'aveu n'est pas vu exclusivement comme un face-à-face avec le pouvoir, mais aussi, et avant tout peut-être, comme un face-à-face avec soi, avec soi-même. Ça commence par une explication avec soi-même. Qu'est-ce que vous entendez par une crise de la symbolisation, Jérôme Poré?
Nous parlions tout à l'heure de la crise de l'aveu qui vient principalement de ce phénomène décrit par les sociologues dont nous parlions tout à l'heure, Antoine Garapon, le phénomène de la déculpabilisation. Or, derrière la déculpabilisation, il y a un processus plus général que l'on peut appeler, que l'on appelle parfois désymbolisation. C'est ce que vous faites dans l'ouvrage que vous avez récemment publié sur la justice digitale. Je préfère parler de crise de la symbolisation, car je crois que pour bien comprendre ce phénomène, il faut distinguer trois niveaux du symbole. Au niveau le plus général, et qui est celui sur lequel se tient Ernst Cassirer dans sa philosophie des formes symboliques, le symbole est défini par sa fonction d'organisation de l'expérience. Dans sa totalité, dans ce cas-là, l'expérience langagière,
pour la science que pour le langage,
voilà, n'a pas de privilège par rapport à l'expérience perceptive, à l'expérience affective, ou que sais-je encore. Donc ça, c'est le sens le plus général.
Pas disparaître, celui-là. On aura toujours une forme qui organise l'expérience totale.
Parce que la symbolisation, dans ce cas-là, ne fait qu'un avec l'hominisation. Et la désymbolisation prise au sens strict signifierait déshumanisation, retour
à l'animalité. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on voit, Jérôme Poré? Je pense à l'animalisme, ou je pense à cet intérêt pour cette continuité entre l'homme et l'animal, continuité entre l'homme et la nature. Est-ce que c'est pas un petit peu un doute par rapport à ce qui spécifie l'homme?
Une inversion totale, diriez-vous,
des
processus qui sont à l'œuvre dans l'anthropogénèse.
C'est ça, et qu'on perd de vue.
Peut-être. Mais il me semble plus pertinent, du moins pour la question qui nous occupe, de situer un deuxième niveau, qui est en gros celui du symbolon grec. À ce deuxième niveau, je dirais qu'il y a un lien privilégié entre le symbole et le langage. Et le langage, dans la mesure... Alors, quelle fonction? La fonction de distanciation, parce que le langage échange les signes contre les choses et introduit entre elles et nous, et je dirais aussi entre nous, sa médiation salutaire. Mais aussi, puisque je mets le doigt ici sur la fonction du langage dans la constitution du lien social, une fonction de reconnaissance.
Et donc l'aveu est une forme de reconnaissance.
Voilà. À ce deuxième niveau, je dirais... Le symbole, et l'aveu comme le symbole, ajoutiez-vous à l'instant, c'est un signe de reconnaissance que les hommes s'adressent les uns aux autres. Vous savez, le symbolon grec est ici la référence majeure, parce que pour les Grecs, symbolon, c'était quoi? Un objet brisé dont deux personnes gardaient chacune une moitié et qui leur servait à se rappeler mutuellement leur devoir d'hospitalité.
Mais ça, c'est,
Donc, le symbole est un signe de reconnaissance.
Ça, c'est quand même quelque chose que l'on voit mis en langage à travers l'aveu, quoi, à travers cette scène de l'aveu.
Alors, pour y arriver, ajouter autre chose. Bon, je laisse de côté le troisième niveau, où le symbole se diffracte en multiples configurations relatives
à
l'époque, etc. À la culture. C'est ce qui nous fait parler du symbole de la souillure, du symbole de la chute, etc. Mais ce que je voulais ajouter, et me semble-t-il important, c'est que la désymbolisation va rarement sans une resymbolisation.
Alors justement, s'il n'y a pas de désymbolisation sans resymbolisation, Jérôme Poré.
C'est pourquoi je préfère parler de crise de la symbolisation.
D'accord, mais alors, pour cette émission approchant de son terme, dans quelle perspective on pourrait penser cette nouvelle symbolisation des rapports sociaux à l'œuvre aujourd'hui?
Alors je crois qu'il y en a deux, parce que cette resymbolisation va, est-ce que je dois dire le plus souvent, mais en tout cas souvent de pair, avec une dégradation du symbole en un signe. Je veux dire que le symbole cesse d'être signe de reconnaissance que les hommes s'adressent les uns aux autres, mais par-delà même les frontières des sociétés, des cultures, mais marque d'appartenance, signe d'identité. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le champ religieux, mais pas seulement. Vous évoquiez certaines formes radicales du mouvement vegan ou de l'animalisme. C'est la même façon de marquer son identité, de marquer son appartenance, de sorte que...
Une appartenance qui n'est plus un lieu de communication avec l'altérité.
Exactement. De sorte qu'on pourrait peut-être distinguer deux espèces de symboles. Les premiers mettent l'homme en relation avec l'homme. Ils j'invite au don, au pardon, à l'hospitalité.
À un échange, et ce qui est fondamentalement, là encore, un aveu.
Il demande l'accueil du visage étranger, les autres, ou les mêmes autrement interprétés. Les autres, je dirais, nomment l'ennemi héréditaire, désignent les victimes sacrifiées à l'utilité commune, bref, sont vecteurs de violence et d'exclusion. Or, l'aveu est effectivement partagé entre ces deux orientations, ou plutôt entre ces deux interprétations différentes des mêmes symboles.
Et comment est-ce qu'on pourrait, c'est ma dernière question, dans la minute qui nous reste, Jérôme Poret, comment est-ce qu'on pourrait imaginer une resymbolisation de l'espace social ? C'est-à-dire que cette tentation de l'innocence, cette volonté de déculpabilisation collective, c'est manifestement le signe d'une transition. Et nous sommes dans un monde, à l'évidence, d'une transition entre ce que certains appellent le monde ancien et le monde nouveau. Dans quelle piste faudrait chercher une resymbolisation, Jérôme Poret ?
Il s'agirait, si je vous comprends bien, Antoine Garapon, de sauver l'animal symbolique des
dangers. Oui, c'est ça. Oui, et de lui donner un nouvel environnement
qui le menace.
Continuer, ça marche.
Je crois qu'il faut contribuer. Et là, il y a des façons, je dirais, très pratiques de le faire. Ça commence avec l'enseignement des langues à l'école, au collège, etc. Il faut restaurer le langage.
Voilà. Et respecter le langage.
Respecter le langage, mais je dis le restaurer parce que le langage est le plus souvent réduit à sa fonction utilitaire. Et la deuxième dimension, elle est politique. Parce qu'il est aussi de la responsabilité des États de faire en sorte que le monde, pour chacun des citoyens qui habitent cet État, reste un monde habitable.
Merci Jérôme Poret.
Merci Antoine Garapon.
Matière à penser, Jérôme Poret, Claude Niort, Séam Boutata, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous demain en compagnie de Sophie Demijola-Mellor, psychanalyste. Bonsoir.